France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, l'Opéra de Paris ne pourra pas dire que son anniversaire n'aura pas été fêté. Ses 350 ans ont en effet suscité deux expositions, de nombreux livres dont nous nous sommes fait l'écho dans cette émission, et même une série radiophonique proposée par Jérémy Rousseau et diffusée cet été, les samedis et dimanches, sur France Musique. Ces 16 rendez-vous, Jérémy Rousseau a décidé de les prolonger par un livre. Un livre pour nous raconter l'histoire de l'Opéra de Paris. Opéra de Paris, toute une histoire de Jérémy Rousseau avec Gérard Denisot, une coédition Larousse France Musique. Les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset, c'était l'ouverture d'Armide de Jean-Baptiste Lully. Bonjour Jérémy Rousseau.
Bonjour Philippe.
Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien, vous êtes producteur sur la chaîne depuis de nombreuses années, vous animez tous les dimanches à 16h la tribune des critiques de disques et vous êtes par ailleurs le directeur de la rédaction de Classica. Alors, je l'ai dit en introduction, ce livre c'est l'écho, le prolongement d'une série de 16 rendez-vous qui ont lieu cet été, tous les samedis et dimanches, entre 16h et 17h, c'est ça ?
C'est ça. C'est une proposition qui m'a été faite par Marc Voinchet et Stéphane Grant il y a quelques mois de marquer l'anniversaire de l'Opéra de Paris, des 350 ans de la création de l'Académie Royale de Musique. Et on en a parlé, et puis l'idée était de raconter cette histoire. Mais vous savez, l'Opéra de Paris, on peut le raconter sous tellement d'angles. Il a été décidé que ce serait un rendez-vous les week-ends, d'une heure à chaque fois, qu'il fallait essayer de brosser ces 350 ans de 1669 à aujourd'hui en 16 rendez-vous. Je pense que demain, il faudrait refaire cette émission. Peut-être qu'on pourrait trouver 16 autres rendez-vous, 16 autres chapitres complètement différents.
Ouais.
Il y a évidemment une part très... des choses incontournables, comme
et puis des choix
quand même. Et puis des choix plus subjectives, puis des choses incontournables comme...
Oui, comme Lully, même si on sait bien que c'est pas le créateur de l'opéra français. On sait bien que c'est Perrin et Cambert avec Pomone, vous le rappelez. Votre livre, comme votre série d'émissions, suit un parcours chronologique, mais il y a également des angles thématiques.
C'est ça. Alors, c'est un livre qui reprend... Enfin, c'est un livre coécrit avec Gérard Denisot, qui est un musicologue, un universitaire, qui a, pour enrichir cette histoire de l'Opéra de Paris, proposé une sorte de guide des grands opéras du répertoire, traité de façon accessible, avec des focus sur les grands airs, les grandes scènes, et puis bien évidemment l'histoire de l'œuvre en question à l'opéra.
Alors, dans le cadre s'appelle la séquence musicale.
La séquence musicale. C'est
sur une double page, ou parfois quatre, oui. Sur fond
selon
noir.
Selon l'importance de l'opéra.
Voilà, avec effectivement des opéras qui n'ont pas forcément obligatoirement été créés à l'Opéra de Paris.
Et oui, puisque les opéras qu'on entend tous les jours, vous et moi, Philippe, que ce soit Les Noces de Figaro, Carmen, et bon nombre d'autres, les grands Wagner, même Tannhauser, n'a pas été créé à l'Opéra de Paris. Ouais. On a des versions ces opéras sont entrés tôt ou tard à l'Opéra de Paris, mais disons que, à part Armide et Les Vêpres Siciliennes, quelques grands chefs-d'œuvre, bien évidemment, mais disons qu'il y a énormément d'opéras qui n'ont pas, la plupart des opéras n'ont pas été créés à l'Opéra de Paris.
Enfin, et il y a même des décalages assez surprenants. Je pense notamment à l'Orfeo de Monteverdi, 1607, qui passe pour être un des premiers opéras de l'histoire, qui fait son entrée seulement en 2016 à l'Opéra de Paris.
Absolument. On a des cas comme ça. Je crois que la Traviata, de mémoire, est entrée au répertoire sous le règne de Jacques Roucher, c'est-à-dire ce grand directeur d'opéra dans les années, disons grosso modo, de la fin de la Première Guerre à la Deuxième, en 1926.
Oui, il y a de grands écarts. La Bohème, 1973.
Voilà.
On a peine à le croire. Ouais. Péléas et Mélisande, 1977. Ouais. Carmen, que vous évoquiez, créé à l'Opéra Comique en 75, donc 1959.
Absolument. Ce sont des ouvrages qui ont une histoire plus tardive avec l'Opéra de Paris, l'institution Opéra de Paris, oui. Thank you.
Wolfgang Gerhaher dans le rôle de Wolfram, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, dirigé par Marek Janowski. C'était « O du mein Holder Abendstern », extrait de Tannhauser de Richard Wagner. Jérémy Rousseau, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Tannhauser n'a pas été créé à l'Opéra de Paris, mais en 1861, il y a eu quand même sacré barouf autour de cette création parisienne, on va dire, de Tannhauser. Donc l'Opéra de Paris, qui était à ce moment-là à la salle Le Pelletier. Salle Le Pelletier. Vous le rappelez, c'est quand même une maison qui a eu quoi, une dizaine d'adresses différentes.
Que, je crois que le 13, je dirais. C'est possible. Je crois que l'Opéra Bastille, c'est la 14e salle. C'est-à-dire que il faut bien penser que le Palais Garnier et l'Opéra Bastille sont les deux seuls théâtres aujourd'hui qui subsistent, si je puis dire, d'une institution créée en 1669. Il y a eu beaucoup de salles provisoires, enfin des salles provisoires qui ont duré parfois 50 ans, plus de 50 ans, des salles de jeux de paume au tout début, la salle du Palais Royal de Molière qui a brûlé.
C'est
pas la seule, il y en a eu d'autres. Et puis, il y a eu des attentats. Il y a eu un attentat contre Napoléon Ier. Et puis, l'attentat d'Orsini, en 58, à la salle dite de la salle de la rue Le Pelletier, qui devait être une salle provisoire dont on devait se servir quelques saisons. Et puis, qui a été la grande salle d'opéra
du 19e siècle,
entre 21 et 73, qui a brûlé en une nuit. Et c'est suite à cette salle, c'est le Palais Garnier, plutôt l'opéra de Charles Garnier, qui a remplacé cette salle Le Pelletier, dans laquelle on a entendu cette version française, enfin la version française de Tannhauser, dont vous avez passé un extrait, et puis ce qu'on a appelé le grand opéra à la française, les derniers grands opéras de Rossini, Guillaume Tell en 1829, les Meyerbeer, La Juive de Halévy, et puis Verdi également, qui a donné ses Vêpres siciliennes, dont Carlos, et qui a obéi à ces règles très précises qu'un compositeur devait respecter lorsqu'il venait créer à l'Opéra de Paris, où le spectacle était avant tout, enfin était très visuel, se devait d'être visuel.
Et alors pourquoi ce scandale, ou en tout cas tout ce barouf autour de Tannhauser en 1861, Jérémy Rousseau ?
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, je pense que Wagner a été c'est un personnage pas assez peu sympathique, qu'il a réussi plus ou moins à faire imposer ce Tannhauser via Napoléon et la princesse de Metternich, qu'il s'est montré assez odieux durant les répétitions. Il y a des chiffres tout à fait étonnants. Je crois qu'il y a eu pour ce Tannhauser près de, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait à l'époque, plus de 120 répétitions, je crois. Des moyens mis en œuvre absolument colossaux. Et puis, rien ne lui convenait. Il voulait remplacer le chef d'orchestre. Donc, on le voyait dans la salle diriger lui-même, tandis que dans la fosse, Pierre-Louis Ditsch dirigeait ses musiciens. Et puis, il a aussi pris pas mal de libertés par rapport aux traditions, notamment le fameux ballet, qui était une tradition. Un compositeur se devait de faire jouer un ballet pour que les abonnés, notamment, puissent voir leurs danseuses et qu'ils puissent aller les rejoindre après au foyer de la danse, derrière la scène. Donc, ils arrivaient, ces messieurs, traditionnellement assez tard à l'opéra, on avait coutume de placer le ballet, non pas au début, mais au troisième acte ou après.
Ouais.
Et Wagner a placé son ballet juste après l'ouverture, la fameuse bacchanale de la version française de Tannhauser, qui est un chef-d'œuvre, mais qui a suscité des réactions. C'est une des raisons de la cabale, mais c'était d'une violence extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on venait avec des crécelles, des cloches, on hurlait, et on avait prévu au début une vingtaine de représentations de ce Tannhauser, et Wagner y a renoncé au bout de la troisième. Il a dit « je succombe à la cabale
». Il y a dans votre histoire de l'Opéra de Paris, Jérémy Rousseau, un ton volontairement dynamique. Vous prenez souvent le lecteur à partie, vous n'hésitez pas à l'apostropher. On sent chez vous une volonté d'avoir un ton vraiment narratif, de raconter une histoire plutôt que de faire un livre d'histoire.
C'est ça. En fait, l'idée était que c'est un livre qui s'appuie pour ces 16 chapitres sur l'Opéra de Paris, sur cette série. L'Opéra de Paris, toute une histoire qu'on a fait tous ensemble cet été sur France Musique avec Claire Lagarde, Marion Guimet, toute une équipe qui a joué le jeu aussi de cette histoire à raconter de façon, j'espère, nerveuse. C'est une suite de coups de théâtre extraordinaires. On peut la raconter de mille façons, sur l'aspect musical, historique. Il y a un épisode qu'on avait appelé Crime et Châtiment pour raconter les malédictions, des incendies, des meurtres. Et puis toute une mythologie aussi, on va dire, autour du Palais Garnier.
Avec son fantôme.
C'est que c'est un des théâtres les plus connus dans le monde. Tout le monde connaît le Palais Garnier. Enfin, s'imagine connaître le Palais Garnier avec la grange batelière qui passe sous l'opéra. Parce qu'en effet, Charles Garnier, lors de l'assèchement de la nappe phréatique, enfin, au moment des travaux, on a trouvé une nappe phréatique sous l'opéra qu'il a fallu assécher pour construire les fondations de la cage de scène. Donc, il y a toute une mythologie qui est née de ça, dont Gaston Leroux, au début du XXe siècle, a fait son miel pour en faire le fantôme de l'opéra. Donc il y a mille façons d'aborder l'opéra de Paris, et on a choisi dans cette série et dans ce livre une façon abordable, enfin pas abordable, mais dynamique, et volontairement prenant à partie, en effet, parfois, et en faisant des choix, par exemple, de raconter la querelle des bouffons, en m'imaginant Jean-Jacques Rousseau racontant ce qu'il avait connu avec Rameau et ses déboires, et voilà, histoire de donner une couleur plus particulière, plus personnelle, voilà.
Après le Tannhäuser de Wagner donné à la salle Le Pelletier en 1861, c'était un extrait de Sylvia de Léo Delibes donné cette fois-ci à l'Opéra Garnier en 1876 par le corps de ballet de l'Opéra de Paris que vous avez évoqué, Jérémy Rousseau, et auquel vous consacrez quand même plusieurs pages, même plusieurs chapitres dans votre livre.
Bah oui, on dit qu'on a le meilleur corps de ballet du monde, quand même une des plus grandes compagnies du monde, et puis la danse est indissociable de l'histoire de l'Académie royale de musique.
Et depuis ses débuts, d'ailleurs.
Depuis ses débuts. Enfin, Louis XIV était un très grand danseur, on le sait. Il a dansé, il est apparu en public, enfin, il est apparu dansant. Et il y a la danse aussi qui est intimement liée à l'histoire de l'opéra français en tant que genre. L'opéra, la tragédie en musique de Lully est faite de d'influences de l'air de cour, de la tragédie classique, de la pastorale, et puis aussi du ballet, tout
bien
simplement.
Sûr, ouais.
On danse énormément, chaque acte se termine par un ballet, et cette tradition, elle va perdurer, le ballet va bien évidemment évoluer, il va occuper une place prépondérante dans les opéras ballets dramaux, et puis au 19e siècle, il va y avoir l'apogée de ce qu'on a appelé le ballet blanc, avec des danseuses comme Marie Taglioni, qui est l'une des premières à utiliser la technique de la pointe dans Gisèle, dans la Sylphide déjà, et puis Gisèle, et puis les ballets qui étaient aussi dans Robert le Diable, dans le ballet des nonnes de
Bien
Robert
sûr,
le
ouais,
Diable, dans
ouais.
les opéras.
Mmh.
Dans...
Et ça permet de faire écho à l'exposition que l'on peut voir en ce moment consacrée à Edgar Degas ouais. au musée d'Orsay. Et toile de Degas qui figure d'ailleurs, il y en a plusieurs dans votre livre, Jérémy.
Degas Rousseau, ouais. qui a représenté, enfin qui a peint ce fameux foyer de la danse de la salle de Pelletier.
Ouais. Ouais. Livre donc à voir, à lire bien sûr, parce que très richement illustré, il y a au moins 3 ou 4 illustrations par page, mais livre également à écouter grâce au code QR, c'est ça ?
C'est ça, on scanne avec son téléphone, sa tablette,
ouais.
et on a directement accès à la série d'été, qu'on peut toujours podcaster d'ailleurs sur France Musique. La série, je fais un petit parenthèse, c'est qu'elle avait pour but, c'est une émission d'une heure, elle se divisait en 2 chapitres, une première partie étant un récit, avec des musiques souvent absolument pas liées au sujet, de façon à renforcer la narration de cette demi-heure, et puis une deuxième demi-heure de playlist, de musique sans aucun texte, où on voyageait dans l'univers de Rameau, de Verdi, de l'inauguration de l'Opéra Bastille. Il y a des documents assez étonnants qu'on peut retrouver via ce QR code qui renvoie au site de France Musique, notamment ce qu'on a appelé la nuit d'avant le jour, le 14 juillet 1989, puisque le jour d'inauguration de l'Opéra Bastille, qu'on a aussitôt fermé, bien sûr, puisqu'il n'était pas fini.
Oui.
Voilà.
Скажи мне правду!
Нет!
Maria Ewing, Sergei Larine et Philippe Langridge avec l'orchestre qu'on appelait à l'époque l'orchestre de l'Opéra Bastille, dirigé par Myung-Woon Chung. C'était un extrait de la Lady Macbeth de Mzensk de Shostakovich, Jérémy Rousseau. Une œuvre donc qui fait son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, dans cette nouvelle salle de l'Opéra Bastille, inaugurée en 1989, ouais. Avec entrée à l'Opéra de Paris au répertoire en 1992.
Ouais. Ouais, c'est un des grands spectacles de l'Opéra Bastille qui avait été inauguré. Alors après fermeture, après ce gala, par les Troyens, oui. Mise en scène par Pierluigi Pizzi. Et puis ça a été vraiment, je veux dire, en tant que spectateur, un des...
Ah, pour beaucoup de monde, je crois.
Ah, cette Lady Macbeth, mise en scène par André Engel, qui utilisait tous les plateaux de l'Opéra Bastille, parce qu'on a quand même à l'Opéra Bastille. C'est, le Palais Garnier, à l'époque, c'était la plus grande scène à l'italienne du monde, une scène en pente, mais... Aujourd'hui, l'Opéra Bastille compte toujours la plus grande scène du monde, avec le plus grand nombre de dégagements sur le côté qui permettent, je ne sais pas si on le fait toujours, si on le fait beaucoup même, d'alterner 3-4 spectacles par semaine.
C'est ça, oui.
Et
mmh.
Cette Lady Macbeth était d'une virtuosité scénique époustouflante, des changements de décor à vue, un incendie sur scène, et puis il y avait Myung-Woon Chung qui était un tout jeune chef à l'époque qui débutait à l'Opéra. Et puis, je veux dire que ça avait été un choc aussi, le choc de l'œuvre.
Bien sûr,
parce que Lady Macbeth est un des plus grands opéras du XXe siècle, qu'on redécouvre tout le temps, puisqu'il y a eu, je crois, deux productions depuis à l'Opéra
Bastille. Depuis, Bastille. Oui, c'est ça, oui, celle qu'on a pu voir récemment.
C'est un classique, de Varlikovski.
Et la troisième,
et puis,
ouais.
Une production il y a une dizaine d'années également. Ça reste un... Et ça, c'est un... Ça montre la politique artistique, le contrat qui avait été signé à l'époque entre Deutsche Grammophon et Myung-Woon Chung, qui a vraiment fait de l'orchestre de l'Opéra Bastille à cette époque-là, ce qu'on appelait l'orchestre de l'Opéra Bastille, un instrument formidable, avec de magnifiques messiaens, notamment, et puis cet enregistrement avec Maria Ewing.
Mmh. Et justement, Jérémy Rousseau, si on parle de répertoire, l'entrée de certains opéras du XXe siècle, comme se l'est dit Macbeth de Shostakovich, et il faut tenir compte aussi de la création à l'Opéra Bastille, c'était quand même aussi un des enjeux. Est-ce que, à propos d'enjeux, est-ce que l'Opéra Bastille cerna assez vite tous les enjeux qui étaient face à lui, face à la création contemporaine ?
Pas trop, je trouve. Enfin, on peut dire que parmi les œuvres créées au cours des 40 dernières années à l'Opéra de Paris, qu'est-ce qui reste d'opéra qui s'est vraiment imposé au répertoire ? Saint-François d'Assise,
de Messiaen,
de Messiaen,
incontestablement.
On lui a consacré
oui.
un chapitre dans cet opéra, parce qu'il me semble que...
Dans ce livre, oui.
Dans ce livre, pardon. parce que c'est un opéra qui s'est vraiment imposé, mais alors il y a eu des expériences tout à fait intéressantes, il y a eu des réussites, Perella de Pascal du Sapin compte parmi les ouvrages réussis de Pascal du Sapin. Il y a eu des expériences plus malheureuses, il me semble. Je n'ai pas l'impression que les ouvrages de Philippe Fénelon se soient vraiment imposés au répertoire, parmi d'autres, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de... Oui, on aimerait entendre, je ne sais pas moi, un Benjamin, un John Adams, et que sais-je encore, créé à l'Opéra de Paris et repris ailleurs.
Ben, espérons que vous serez entendu. Merci Jérémy Rousseau, je rappelle le titre de votre livre, Opéra de Paris, toute une histoire, écrit avec la collaboration de Gérard Denisot, une coédition Larousse France Musique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Adelino Mello, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Sylvain Faure pour présenter son livre In Memoriam. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.